saine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Dunis.
Bonjour, André Dunis, émission La saine cause, hein, on joue sur l'ambiguïté. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour très rapide hein, sur les mécanismes de la manipulation. J'espère que j'aurai un tout petit peu de temps pour traiter l'excellent petit bouquin « Petit traité de manipulation à l'égard des honnêtes gens » pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui permet de comprendre comment la manipulation peut intervenir à tous les niveaux de la vie sociale, économique, politique. Voilà, voilà. Alors, moi, je partirai, hein, si ça vous dit, d'une journée que j'ai passée à France Info, de 6h du matin à 18h. France Info, c'est une radio aux 5 millions d'auditeurs qui fait du buzz sur les infos. Alors, c'est pas une petite radio locale qui va faire la pièce à ses puissants moyens d'État ou à ses puissants moyens privés, mais les moyens de l'État sont aussi des moyens privés, vous le savez, parce que prenez par exemple les chaînes de télévision publiques, elles sont alimentées par la publicité, et pas seulement par les cotisations des auditeurs hein, ou des téléspectateurs. C'est vrai qu'on paye la redevance, mais cette redevance ne couvre qu'une très faible partie des frais qui sont, eux, couverts par la publicité. Or, les annonceurs, vous savez qui sont, ce sont les gens qui veulent écouler d'énormes quantités de marchandises produites dans d'énormes usines, financées par d'énormes banques, et toute cette institution du système libéral ou capitaliste, ce sont les actionnaires, les milliardaires, qui tiennent ce système en mettant l'argent et en voulant des retours sur investissement. Vous comprenez bien que si quelqu'un qui a mis son argent dans une usine de dentifrice, allez, on ne cite pas les marques, sachant que les dentifrices contiennent du E171, hein, c'est de l'oxyde de titane qui blanchit, enfin qui blanchit pas, qui fait apparaître plus blanc que blanc. Et il y en a dans toutes les crèmes solaires, il y en a à peu près partout, et il y en a même dans le pain qu'on mange. Si j'en parle, c'est qu'on est en train d'examiner comment le retirer, parce que c'est un perturbateur endocrinien, et même certaines études auraient tendance à dire qu'il est cancérigène. Bravo pour les crèmes de nos enfants sur leurs fesses avec érythème, de mettre une crème, et ben parce que ce E171 fait apparaître plus blanc que blanc. Donc le pain en contient, donc on mange une molécule chimique d'oxyde de titane qui fait apparaître le pain encore plus blanc que blanc, afin qu'il soit plus vendu. Si vous êtes actionnaire donc d'un dentifrice qui vous fait plus blanc que blanc, eh bien vous avez tout intérêt à ce qu'il se vende. Pour qu'il se vende, il faut faire de la publicité. Donc vous allez mettre une pub sur TF1, bah non, TF1 c'est privé, ils mettent bien ce qu'ils veulent, mais mettons sur la 2, hein, radio dont vous pouvez espérer un peu plus d'objectivité, et en réalité l'annonceur fait la politique de ce média, dans la mesure où on ne va pas se fâcher avec des annonceurs qui font vivre les deux tiers ou la moitié du système d'information télévisuelle. Donc, premier mécanisme, si vous voulez, qui est peut-être intéressant à regarder, c'est comment cette radio que j'écoute de temps en temps, hein, quand on est en bagnole ou autre, qui s'appelle France Info, dit à 6h du matin, en relayant sans la moindre, la première règle de non-manipulation pour un journaliste, c'est de vérifier ses sources et d'essayer de voir des informations contradictoires pour essayer d'établir un fait, un peu comme un historien qui fait une critique des témoignages et essaye de voir quel est le fait derrière les témoignages divers et variés des fameux témoins d'un événement historique. Eh bien là, les journalistes ont purement et simplement relayé ce que disait le ministre de l'Intérieur, Castaner, disant qu'il y avait une agression des Gilets jaunes sur l'hôpital Pitié-Salpêtrière, qu'ils étaient arrivés derrière une porte, devant une porte, où derrière cette porte il y avait des patients venant d'être opérés en réanimation, oxygénation. Et donc c'était très grave pour lui, il y avait une tentative d'intrusion dans un hôpital public, auprès de gens venant de subir une opération. Vous vous rendez compte, l'émotion dans le public. Tout ça, ils l'ont relayé sans vérifier ni auprès des soignants, infirmières, ni auprès des fameux gilets jaunes, une trentaine, ni des témoins qui pourraient être indirects passant par là. Moi, tout de suite, j'ai pensé, à 6 heures du matin, que, bien entendu, c'est des gens, puisqu'il y a l'habitude des manifestations, hein, ce sont des gens qui sont réfugiés, qui étouffaient un peu avec le gaz lacrymogène et qui ont dû se réfugier la première porte qu'ils trouvaient d'ouverte. Bien, il fallait attendre 18 heures le soir pour avoir cette confirmation par le même média, qui, à force que d'autres médias, et surtout sur les réseaux sociaux, hein, YouTube et compagnie, des gens avaient filmé qu'ils avaient cherché refuge, ces fameux 30 gilets jaunes, dans un couloir qui les menait derrière cette porte, au moins à l'abri de charges de police. Donc, vous voyez comment on transforme en espèce de futur assassin, quasiment. Si vous imaginez, dans l'imaginaire, c'est on laisse entendre qu'on aurait pu débrancher, qu'on aurait pu envahir la salle de réanimation, on dit réanime hein, dans les hostos, alors qu'il s'agissait simplement de gens qui s'étaient réfugiés dans un couloir. Et donc, voilà, comment ça, la manipulation se fait. Le problème, c'est que quand l'information a été donnée à 6 heures du matin, dans un média, où la première information que l'on donne, les gens retiennent celle-là. Après, les rectificatifs sont bien plus longs à passer dans l'opinion. Donc, on a gardé de l'opinion que les gilets jaunes, qu'on avait déjà stigmatisés de dangereux en les assimilant à des casseurs, se sont retrouvés cette fois-ci quasiment stigmatisés de vouloir pénétrer un hôpital et y arrêter l'oxygène ou les transfusions. Là, quand on voit ça, on se dit quand même, attendez, ils sont bien payés, hein, les journalistes de France Info, comment ils ont pu relayer jusqu'à quasiment 18 heures le soir l'information et qu'ils ont été contraints de remettre la vérité en route, alors qu'ils le pouvaient très tôt, en faisant un travail que doit faire tout journaliste. Un est sur le terrain, ils sont au téléphone, ils se coordonnent en salle de rédaction et ils essayent de ne pas dire des conneries. Alors, vous avez bien compris que nous, ici, à Radio Chartreuse, on essaye de faire un travail un peu sérieux, s'appuyant sur des faits. Quand avec mon invité, que je vous présenterai tout à l'heure, on va expliquer qu'à Grenoble, il y a moins 30% d'oxygène dans l'air, ce n'est pas, on n'a pas à inventer, on ne fait pas une manip de l'opinion, on dit voilà, il se passe quelque chose de grave, outre les pollutions aux particules fines et au CO2, NO2, SO2, il y a d'autres phénomènes gravissimes pour la santé de nos enfants et pour la nôtre. Alors, les mécanismes. C'est les mécanismes intellectuels par lesquels on se laisse subjuguer. Moi, j'en vois un immédiat. Hein, vous avez vu, donc, manipulation plus ou moins consciente des médias pour soutenir un pouvoir en place. Il y en a un, ce que je trouve excessivement catastrophique en France, c'est la compartimentalisation et la spécialisation. Allez, là, par exemple, on va parler des bébés phoques. Et puis tout de suite après, on va dire, ah ben tiens, il y a beaucoup de plastique dans les océans. Ah, puis là, on va dire, tiens, le permafrost, ils font. Là, on va dire, oh là là, mais vous avez vu les urgences, il y a une première fois en France qu'il y a une grève des urgences. Voilà. On va tout compartimentaliser, spécialiser, faire une sorte de division du travail intellectuel, de sorte que les gens interviennent par secteur d'expertise. Et ça, moi, ça me tue, parce que ça ne permet pas d'avoir une vision globale d'un système qui écrase à la fois l'homme et la planète. Allez, on va aller vite. Dire que c'est seulement voilà, le fait de prendre l'avion qui tue le climat. Mais non, c'est aussi tout le transport des marchandises par la mondialisation sur lequel j'avais fait deux premières émissions. Hein, quand vous avez un porte-container qui consomme 12 tonnes plus 60 tonnes de fuel lourd extrêmement polluant à l'heure, et qu'il faut 10 jours pour revenir avec les saloperies en plastique de Chine, vous m'excusez, mais c'est une autre pollution que celle de prendre sa bagnole diesel pour faire 50 bornes aller-retour pour aller au boulot. Ou que, voilà. Mais prendre l'avion, c'est gravissime, c'est sûr. Parce que faire aller-retour Paris-Montréal, c'est quand même par passager 2 tonnes et demie de CO2. Aller-retour, hein. 1 tonne 25 pour l'aller, 1 tonne 25 pour retour. C'est extrêmement polluant. Hein. Si l'avion a 400 passagers, calculez combien. C'est vrai qu'ils ont raison de culpabiliser sur l'avion et certains de nos usages. Tirer la chasse d'eau 18 fois par jour est une connerie sans nom avec de la belle eau. Bon, bref. Mais c'est pas ça qui va sauver la planète. Je veux dire, il faut à un moment donné essayer de sortir de la compartimentalisation, de la spécialisation, des voilà. Alors ça, c'était les deux premières choses que je voulais montrer. Maintenant, je vous le fais en plus dense et en plus court sur ces techniques de manipulation, stratégie ou technique de manipulation, très bien vue par, bien sûr, Chomsky, hein, qui a affaire, parce que les États-Unis, pour la manipulation, vous avez vu qu'ils nous avaient fait avaler la guerre de l'Irak, guerre pour le pétrole, pour le contrôle de l'économie irakienne et le contrôle des pays arabes, pour les tétaniser et qui se révoltent plus, mais surtout que l'Irak, c'était la troisième réserve mondiale, donc on s'assurait le pétrole, et puis surtout, Ali Burton, dont le PDG était le vice-président de la fameuse démocratie américaine, Dick Cheney, la reconstruction. Vous rasez la moitié de Bagdad, et après, vous avez des contrats de dizaines de milliards d'euros pour la reconstruction du système d'eau, de pompage, d'épuration. La vie est très belle, donc on fait la guerre, parce que c'est là où le capitalisme fait le mieux. Donc là, deuxième bouquin à lire de force, c'est La stratégie du choc de Klein, qui, bon, on me dirait, non, on ne lit pas les livres, c'est vrai que moi je vois qu'on ne vend plus de livres, quoi. Les gens lisent, mais surtout sur Internet, où il y a beaucoup d'images, et avec les images, on ne comprend pas forcément ce que Naomi Klein veut nous dire dans La stratégie du choc, qui est un des mécanismes voilà, on crée une situation de choc. Alors, d'abord précédé par des mensonges, hein, en Irak, c'était la fameuse fiole que le ministre des armées, un noir de l'époque, on fait toujours faire les travaux, les mauvais travaux des blancs par les autres ethnies, a montré une fiole en disant que l'armée de Saddam Hussein était la deuxième du monde, qu'elle risquait de nous ravager avec des armes de destruction massive, et on s'est rendu compte que cette armée, en 2 heures, elle était KO, on s'était fichu de nous, et la fiole n'a jamais existé, et les armes de destruction massive non plus. Et pendant ce temps-là, on a eu en Irak 1,5 million de morts, des enfants qui crèvent de dysenterie parce qu'ils ont plus de dos propre, etc. Donc la stratégie du choc est un des moyens de détourner l'attention du peuple. C'est arrivé au Chili avec les grands penseurs du libéralisme capitaliste Milton Friedman, qui ont fomenté avec le gouvernement US de l'époque la fameuse, c'était surtout la CIA, le fameux coup d'état du général Pinochet. Il n'était pas tout seul, Pinochet, ni même l'armée chilienne. Ils ont été télécommandés et ils ont créé une telle choc dans la population chilienne en bombardant la Moneda et en assassinant le président que les gens ne savaient plus à quel sein se vouer. Et bien, c'est là que on a expérimenté pour la première fois en 1974 la privatisation simultanée des banques, des écoles, des machins. Bref, le but de l'opération, c'était pas seulement de mettre à mal la soi-disant révolutionnaire qui avait élu démocratiquement, hein, c'est une élection démocratique. Mais c'était des révolutionnaires, ils voulaient s'en prendre aux intérêts du capital, des Américains, gna gna, etc. On a préparé par un bon bombardement d'idées, mais ensuite le bombardement réel et la mise dans un stade de dizaines de milliers de personnes a permis, derrière cette stratégie du choc d'un peuple complètement terrorisé, complètement sidéré de ce qui arrivait, et ben de privatiser toutes les banques, tous les services publics, les transports, etc. On appelle ça la stratégie de la diversion. Elle est indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles dans le domaine de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie, de la cybernétique, parce qu'on distrait l'attention du public sur un événement. Hein, elle explique aussi quand on a bombardé la Maison Blanche à Moscou, après la chute du communisme, il y a eu des élections à répétition, qui ont quand même amené une assemblée relativement représentative, hein, soyons pas dupes, mais quand même relativement représentative. Alors Helsine, qui travaillait pour les intérêts des oligarques, pour la privatisation massive de l'économie russe, qui était une économie d'État, d'accord, qui était un capitaliste d'État, d'accord, mais où il y avait une certaine égalité entre les gens. Même s'il y avait oppression, chasse aux opposants, camps et compagnie, il y avait quand même la possibilité de faire une économie un peu moins prédative que celle qui a succédé aux communistes. Donc on a eu le communiste de caserne épouvantable et on a eu un capitaliste de mafieux encore plus épouvantable ou aussi épouvantable, mais entre les deux, bien sûr, l'illusion de la liberté avec des magasins regorgeants de marchandises et 120 millions de pauvres d'un coup, par la manipulation de la monnaie en une nuit, 120 millions de Russes pauvres d'un coup, qui ne pouvaient que passer devant les magasins et les regarder, parce qu'il n'y avait pas de quoi acheter, vu la ruine de cette économie et des usines entières qui avaient fait les satellites et autres, acheter pour un rouble. Donc garder le public occupé sans aucun temps pour penser ou lui créer des chocs qui détournent son attention permet ensuite de faire avancer le système de la privatisation capitaliste. Regardez ce qui s'est passé pour Katrina. L'inondation massive de Katrina avec la tempête, qu'est-ce qui s'est passé? On a laissé les pauvres se débrouiller. Vous vous souvenez, il y en a quand même 2000 qui sont morts de faim au sommet des immeubles, notamment des handicapés. Et ça a tellement tétanisé la population. Vous avez de la flotte qui monte à 5-6 mètres de haut. Pensez qu'il y a une chose, c'est de trouver une barque qui peut vous barrer. Ou vous barrer avant que ça arrive. Mais des fois, ça, vous n'avez pas bien prévu et ça vous arrive dessus. Justement, ils n'ont pas tellement informé la situation, la population. Je présume que ça a été fait exprès. Là, pour les preuves, on prend en discuter. De sorte à ce que la population, ensuite, a retrouvé toutes ces écoles privatisées. Voilà. La population avait tellement d'énergie prise et de préoccupations pour s'occuper de se reloger ou de faire son jardin ou de chercher où il y avait une grande surface qui rouvrait que pendant ce temps-là, on leur a privatisé les choses les plus essentielles, c'est-à-dire les écoles de la Louisiane. C'est pas beau, ça ?
Qu'embellir, on vient salir, prouver que nous aussi on est esclaves de cette société. Tout le monde veut niquer le bénef en un claquement de doigts, sans calculer les années à rapper sur un claquement de doigts, sur des clapements de mains. On ne devient pas assassin en insultant les chiens. Quand ce sera la guerre, man, tu prieras pour la paix. Demande aux Rwandais ce qu'est une famille massacrée, aux gangs de LS ce qu'est de perdre tous ses frères, ou même les jours de deuil, ton cadavre au cimetière. Si tu vis la paix, sois un soldat pour la garder. N'engraine pas les petits à devenir des tarés. Sniff, t'as cessé, mais assume ce que tu fais. Un ladron sans cosa peut vite se faire buter. Mais bon, le stress sans cesse, on deal avec. Hip-hop, ça va avec, la rue, ça va avec. Ce sont les fat tracks qui deviennent nos comètes. Détonne pas que nos héros ont tous des sales têtes. On est tous à deux doigts de perdre le combat. La vie nous foudroie, la mort nous côtoie. Mon flow, je n'ai pas le choix, c'est comme ça. Hip-hopologie à Kilombos Africa. On est tous à deux doigts de perdre le combat. La vie nous foudroie, la mort nous côtoie. Mon flow, je n'ai pas le choix, c'est comme ça. Hip-hopologie à Kilombos Africa. Quand ce sera la guerre, pose-toi tout de suite la question de qui l'a créé, qui l'a fait, qui récolte le pognon. Pose-toi la question aussi, pourquoi ce pays bombarde ce pays et ne bombarde pas celui-là. Toute guerre est profit pour celui qui la déclenche, et ceux qui la déclenchent ne sont pas des vierges en robe blanche. Ce sont les bankers qui dictent les lois économiques, les bankers et leurs abus politiques. Pourquoi le Liban est bombardé depuis 68? Pourquoi l'Afghanistan a eu l'aide de l'Amérique? Pourquoi le Tibet est annexé par la Chine? Pourquoi capitalisme ou communisme ont des états qui assassinent? Pourquoi Al-Qaïda et Hezbollah existent? Qui donne des armes au PCC, au Blood, au Crips? Quand j'entends guerre, j'entends profit, manipulation, intérêt, contrôle, leur survie. On est tous à deux doigts de perdre le combat. La vie nous foudroie, la mort nous côtoie. Mon flow, je n'ai pas le choix, c'est comme ça. Hip-hopologie à Kilombos Africa. On est tous à deux doigts de perdre le combat. La vie nous foudroie, la mort nous côtoie. Mon flow, je n'ai pas le choix, c'est comme ça. Hip-hopologie à Kilombos Africa. Tous Ceux qui ont fait la guerre ne veulent plus la faire. Demande à ton grand-père, demande à ton père. La guerre c'est la mort gros, ça sert à rien gros. C'est plus haut que ça se passe poteau, serre-toi ton cerveau. L'homicide est volontaire, c'est toujours la même. Famine, guerre, misère, l'exode il la malmène. Moi je le sais car j'ai lu, j'ai appris, j'ai découvert. Diviser pour mieux régner n'est pas une maxime en l'air. Donc tout le monde prend son gueule et pas la base de la démocratie s'effrite à cause des on maintient la terreur et embrouille nos esprits légers. On lâche nos libertés pour plus de sécurité. Mais leur sécurité est un contrôle pour mieux régner. Nous ficher tous un à un et tous nous surveiller. Je n'ai rien inventé mais le temps abaisse les cartes. C'est le 21e siècle ou 1984.
Quand ce sera la guerre, pleure pas, gratte pas. Non, pas balance pas comme ces petites putes. Quand ce sera la guerre, tu l'auras voulu avec ton rap de merde qui nous promet la chute et qui nous rend inculte. Quand ce sera la guerre, pleure pas, gratte pas. Non, pas balance pas comme ces petites putes. Quand ce sera la guerre, tu l'auras voulu avec ton rap de merde qui nous promet la chute et qui nous rend inculte. Quand ce sera la guerre, pleure pas, gratte pas. Non, pas balance pas comme ces petites putes. Quand ce sera la guerre, tu l'auras voulu avec ton rap de merde qui nous promet la chute et qui nous rend inculte. Quand ce sera la guerre, pleure pas, gratte pas. Non, pas balance pas comme ces petites putes. Quand ce sera la guerre, tu l'auras voulu avec ton rap de merde qui nous promet la chute et qui nous rend inculte.
Il y a la stratégie de la dégradation. Alors ça, c'est très intéressant. C'est une tactique, c'est à la fois une stratégie et une tactique. Hein. C'est-à-dire à court terme, puis à plus long terme, c'est la stratégie de la grenouille. Alors tout le monde a entendu parler de ça. Vous mettez une grenouille dans de l'eau froide, si vous la chatouillez un peu ou secouez la gamelle, elle saute. Mais si vous mettez la grenouille tranquille dans la gamelle, vous ne l'embêtez pas, hein, mais vous chauffez tout doucement l'eau, eh bien elle va s'engourdir tellement elle est bien dans l'eau tiède. Eh bien, est-ce que c'est pas ce qui se fait en dégradé comme stratégie sur une durée de 10 ans? On commence par vous dire « Ah, la postière a des moustaches, elle me dit « Qu'est-ce que c'est ?» Je lui dis « Je vous fais un baiser !» Il y a eu un tas de chansons, un tas de trucs disant que les services publics en France, c'est un tas de merde. En fait, la postière avait des moustaches, ils faisaient pas leur job, ils passaient leur temps à se limer les ongles. Bref, hein, une longue stratégie de décrédibilisation, hein, de stigmatisation des services publics. Et après, ben, l'opinion, elle est prête à accepter qu'on privatise nos télécoms. Ben, aujourd'hui, c'est simple, on n'a plus de cabine pour téléphoner. Ils ont coupé tous les fils de cuivre, ils les ont tout arrachés, tout recyclés. Enfin, pas recyclés, c'était de l'alu, mais ils les ont toutes balancés en décharge. Conclusion, si Internet, entre parenthèses, ça je vais faire une émission de fond sur l'effondrement d'Internet, ça c'est une prochaine émission, 50% de l'électricité mondiale sera utilisée rien qu'à faire tourner les data centers, les grands ordinateurs, là, les grands disques qui stockent nos données, nos films et autres choses sur Internet. Pensez donc, je ferme la parenthèse, hein, que toute le savoir, toute l'histoire, toute la mémoire de 7 milliards d'humains, quasiment, sauf dans les sociétés dites primitives, se trouvent désormais stockés sur des supports qui vont s'effondrer. Elle est belle la vie, hein. Il n'y a pas que l'effondrement du climat, de l'alimentation, de la biodiversité, et peut-être aussi du système économique et bancaire. Mais il y a aussi un effondrement extraordinaire en perspective, c'est le collapse Internet. Faites attention avec vos données, ça on vous l'a déjà expliqué que vous étiez bien, comment dire, espionné, hein, par les Google et compagnie. Mais là, c'est beaucoup plus grave, c'est que le système va entrer en étranglement, collapse. C'est-à-dire, on ne pourra pas consacrer 50% d'électricité à faire tourner des données sur les réseaux. Et pendant ce temps-là, on n'aura plus de téléphone, puisque tous les téléphones, messieurs, mesdames, sont désormais sur les circuits Internet. On n'a plus de circuits de cuivre, plus de systèmes qui permettaient directement d'appeler quelqu'un par un circuit de cuivre, d'avoir des téléphones au bas de chaque immeuble, comme avant. Et la France, là, de ce point de vue-là, elle avait fait un service public du tonnerre. Vous l'avez payé, ben vous ne l'avez plus. Et quand ça va cracher du côté d'Internet, ben vous ne pourrez même plus téléphoner, vous ne pourrez même plus récupérer vos photos de famille. Voilà ce qui va nous arriver. Alors, la manipulation, elle a été claire et nette, là, ici. Hein. C'est, on nous raconte qu'Internet, la numérisation, c'est immatériel. C'est-à-dire que ça économise du papier, ça économise du temps, ça économise de la main-d'œuvre. Alors ça, pour la main-d'œuvre, ça en a beaucoup supprimé. Et c'est tellement merveilleux de se mettre devant un ordinateur, de chercher ses horaires SNCF plutôt que d'avoir un guichet de gare, etc. D'accord, les copains, mais voilà, ça va nous coûter très, très cher. Voilà. Alors, il y a la stratégie donc de la grenouille qui cuit tout doucement sans s'en rendre compte. Nous cuisons tout doucement durant les années 80, 90, où là, on nous a présenté le privé comme étant nettement plus performant. Ben, vous avez eu comme est performant France Télécom, hein, 48 suicides, de plus en plus cher, voilà. Bon, voilà, tout ça pour que la multinationale française aille s'implanter au Chili ou ailleurs. Et par contre, nous, je vois pas ce qu'il y a de mieux, parce que franchement, hein, si vous voulez avoir Internet et le téléphone fixe, eh bien, vous payez chaque mois, en gros, 50 euros, 60 euros, ça dépend des opérateurs. Si vous voulez payer un peu moins, ben, vous démerdez vous-même, vous allez sur Free, qui est un rigolo, plein de pognon et qui possède le Nouvel Obs et un tas de journaux. Lui, Free, il vous fera payer moins cher, mais quand vous avez un pépin, vous vous débrouillez tout seul pour vous dépanner sur votre ordinateur, sauf qu'il est en panne à cause de Free, donc vous ne pouvez pas vous dépanner, donc vous allez chez un copain, puis il ne peut pas vous dépanner, puis c'est très compliqué de se dépanner, parce qu'il n'y a pas de boutique, et comme on a économisé dans les boutiques, eh ben vous ne pouvez pas vous dépanner, donc vous abandonnez Free, mais Free ne se laisse pas abandonner comme ça, va vous garder du pognon. Mais non, c'est merveilleux la privatisation. Regardez la SNCF, elle est en privatisation, il y a un suicide tous les 15 jours. Elle est pas belle la vie à la SNCF. C'est devenu une société anonyme, c'est plus un EPIC, donc ouverte à la concurrence, donc à un même système. Voilà, mais 30 ans de grenouilles qui cuisent doucement dans l'idée que ça sera mieux. Il y a la stratégie du différé. Donc ça, je l'avais dit tout à l'heure, hein, donc de faire accepter avec un choc. Voilà, il y a s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. La plupart des publicités destinées au grand public utilisent un discours niant-niant. Des arguments, des personnages comme de notre enfance, quoi, voilà. On nous montre Blanche-Neige prête à croquer le loup, Blanche-Neige, et puis comment elle s'appelait, l'autre là qui croquait la pomme, et voilà. C'est débilitant, on nous fait régresser à l'âge du gnangnan, quoi. Caca boudin prout, comme disent les enfants des maternelles, de 2 ans, 3 ans. En fait, on va transformer l'individu en gogo, en jeune enfant, on l'infantilise, en handicapé mental, encore que l'handicap mental, il faut aller très, très sobrement sur ce terme-là, parce que c'est en fait, toutes les recherches montrent que c'est pas aussi simple, et que surtout on peut faire des progrès considérables, notamment en trisomie, si les enfants sont scolarisés et si avec eux il y a des activités non seulement bienveillantes, mais qui développent justement la possibilité de récupération du cerveau. Donc, un ton infantilisant, pourquoi ? Parce que si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 10 ans, elle aura une certaine probabilité, une réponse d'un enfant de 10 ans. On lui renvoie l'image qu'elle a 10 ans, donc elle va répondre comme à 10 ans. Donc elle dit « Du Nutella, j'en veux du Nutella. Aïe, 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 du Nutella à 4 euros. Ah ben on y va tous, hein, on y va, hein, on va stocker du Nutella. » Et vous avez vu ces images absolument débilitantes où en France, pays de longue culture, de longue tradition démocratique et d'une certaine instruction de la population, un tas de débiles courir racheter des pots de Nutella, sachant que dedans il y a 50% de graisse insaturée, dramatique pour la santé, d'huile de palme qui détruit la forêt, tout ça, voilà, 13% de noisettes élevées avec beaucoup de pesticides dans des espèces de forêts avec le machinisme, et ben tout ça, ça tue notre santé, ça fait des enfants obèses. Eh ben non, ben on y va, on va acheter le Nutella, on est devenu crétin. On nous crétinise. Faire appel à l'émotionnel aussi plutôt qu'à la réflexion, alors ça c'est massif. Et moi ce qui m'énerve dans Internet, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'images de fin du monde, de tout ce qu'on voudra, mais ça empêche de penser par quel mécanisme allons-nous vers une fin du monde. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Regardons les arguments contradictoires. On maintient le public dans l'ignorance et la bêtise. Et c'est là que on va l'encourager aussi à la médiocrité. c'est la danse du canard, nanana, nanana. N'avons-nous pas, pendant 5-6 ans, écouté la danse du canard sur la 1, la 2, la 3? Ai-je vu combien d'écoles maternelles faire la danse du canard, nanana, nanana? C'est-à-dire qu'on nous transforme en crétins et on crétinise nos enfants en s'adressant à des publics avec des publicités médiocres, une culture médiocre, des chansons médiocres. Quand mon corps sur ton corps est comme un cheval mort, oh, oh ma Sarah, hein, voilà, et on fait des obsèques nationales à notre grand chanteur, alors on n'en a même pas fait pour Aragon, un de nos plus grands poètes. Quand je regarde ça, je me dis, mais cet abêtissement massif est fait par la publicité, il est fait aussi par la culture de masse, ou ce qu'on appelle la culture mainstream, les chansons « Quand mon cœur sur ton cœur », enfin bref, des, alors qu'on a de très belles chansons, belles poésies, il y a tout ce qu'il faut en France pour élever l'esprit, et on le crétinise pendant que les élites font du mieux qu'ils peuvent pour former leurs enfants dans des grandes écoles. On fait des jeux de simulation, des systèmes bien manou pour l'école de base. Franchement, on n'est pas à la hauteur. Quant à l'école américaine, alors là, c'est la crétinisation assurée. La preuve, quand un peuple vote pour un Trump, c'est qu'il y a eu des dégâts de fait. Voilà, alors je vais passer la parole à mon invité, parce qu'il a sur au moins deux questions à nous apporter. Des choses encore plus graves que je viens de raconter concernant nos gouvernants. Alors, on va commencer, Jean-Claude. Alors, c'est Jean-Claude Tailleul que vous connaissez, parce qu'on a fait deux belles émissions, semble-t-il, puisque là, j'étais à la fête de la ferme de la Berthe, dimanche, le petit déjeuner à la ferme. C'était super sympa. J'ai regretté qu'il n'y ait pas eu de débat. Hein. Hier soir, j'étais à Chambéry pour, pareil, une superbe conférence gesticulée sur la fin du monde, aucun débat. Alors que le gars, il avait ouvert la fin sur l'idée d'autonomie alimentaire. Chambéry a rien à bouffer dans un rayon de 50 km, mais même pas de débat sur qu'est-ce qu'on bouffe à Chambéry si jamais il y a la vallée du Rhône était bloquée, que les camions ne ramènent plus la bouffe et qu'il y a deux jours dans les supermarchés. Rien, rien, rien. Moi, ça commence à m'énerver, l'altermondialisme et tout ça, parce qu'il n'y a plus de débat. On regarde une conférence, on mange un petit déjeuner, on va dans un marché bio, on gna gna, et aucun débat. Donc chacun mange, boit, cause avec son voisin. C'est sympa, hein? C'est super bien. Moi, j'adore. Mais le mieux, c'est qu'est-ce qu'on fait les copains pour tous s'en sortir s'il fait 50 degrés sur la Chartreuse, s'il n'y a plus rien à bouffer qui arrive par les camions, si l'électricité arrive à faire défaut ou si Internet s'effondre. On n'anticipe rien. Un peu comme en 39, vous avez vu ce merveilleux film, L'été 39. Tous ces gens qui sont sur la plage, les enfants jouent, les mamans, il y a comme un sentiment d'inquiétude. Monsieur Hitler vient d'avaler la Pologne, il a avalé la Tchécoslovaquie, il a fait l'Anschluss avec l'Autriche, et Monsieur Hitler, ah, il est un peu énervé, Monsieur Hitler, hein. Ah, merde, les Russes, ils signent un traité avec ce connard. Oulala, mais les Russes, c'est des fumiers, c'est des salauds. Ben, les Russes, ça faisait 5-6 ans qu'ils demandaient qu'il y ait un accord pour prendre Hitler en tenaille. Il n'y a pas d'accord avec, parce qu'on craint plus le communisme que l'hitlérisme. Plutôt Hitler que le Front populaire, disait la bourgeoisie française. Résultat des courses, 64 millions de morts dans l'inconscience joyeuse de l'été 39. Et écoutez les copains, là, c'est pas 64 millions de morts. C'est 7 milliards de morts à la fin du siècle. Il faut peut-être s'y mettre tous ensemble et réfléchir qu'est-ce qu'on fait à Chambéry pour bouffer. Qu'est-ce qu'on va faire dans la vallée de Chartreuse au lieu de faire des cubes de béton, des zones industrielles qui ferment les unes après les autres. On va peut-être réfléchir comment on pourrait avoir quelques poireaux, quelques patates, du bois de chauffe et peut-être des systèmes de chauffe comme celui dont on a parlé avec l'alcool de bois inventé par les chartreux, etc. etc. Donc Jean-Claude, excuse-moi, j'ai fait une petite parenthèse. Qu'est-ce que tu vois, toi, sur quoi tu travailles? Là, je te vois avec les textes sur la Constitution française, comme tu as une formation de juriste, disons de formation en juriste, en droit. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose de ce que tu concoctes là?
Bon, on parlait de la manipulation, et la manipulation, quelque chose de vieux comme le monde, qui a pris de l'envergure au fil des siècles. Bon, faut reconnaître que déjà en Chartreuse, on est au cœur des découvertes de la manipulation, et au cœur des, comment vous dire, des méfaits de la manipulation aussi. Bon, si je suis resté dans la région, c'est en partie pour ça, pour faire des recherches là-dessus. La manipulation avec ses effets sur la santé, qu'il ne faut pas oublier, ses effets sur l'environnement, parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi, et sur le comportement humain, grosso modo. Bon, on parle de la Constitution, le mot vient d'être prononcé par mon ami André, dans la Constitution française, qu'est-ce qu'on découvre ? La loi fixe, ça vaut le coup de le lire, dans l'article 34, ça nous permet d'apprendre qu'on a déjà deux défenses nationales en France, une dont le président de la République se trouve le chef des armées, ce qui est logique, avec le secret défense et tout ce qui va avec, en toute logique. Et une deuxième phrase, ou plutôt qui a été mise en fin de texte, si on peut dire, en fin de création du texte, et on vient d'apprendre qu'on a une deuxième défense nationale. Cette défense nationale se trouve dans l'article 34. Clairement, ça vaut le coup de le lire. La loi fixe...
Article 34 de la Constitution.
Oui, de 1958. La loi fixe les règles concernant les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens sur leur personne et leurs biens. Ce qui veut dire que nous avons un organe qui commande tout ce qui existe dans l'État. C'est-à-dire les personnes et les biens. Donc ça va, le scénario, comment dire, cet organe, d'abord, ne respecte pas la séparation des pouvoirs habituels. Normalement, dans tout État, la séparation des pouvoirs, vous avez le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Bon, là, c'est la loi fixe les règles concernant les biens et les personnes. Donc, on est au-dessus du président de la République. On est au-dessus des assemblées. On est au-dessus de tout individu. Et on est dans la libre disposition du total au profit de cette défense nationale-là. Alors, qui est cette fameuse défense nationale qui est complètement contraire à celle que tous les citoyens connaissent ? Et c'est celle qui nous commande. Cette défense nationale, si on en cherche l'origine, bon, personnellement, je fais des recherches depuis la Chartreuse pour aller jusqu'à l'Inquisition espagnole, qui était une querelle entre des dirigeants juifs, si on peut l'appeler ainsi, mais pas dans toute la religion juive, il ne faut pas mélanger le total, et le Vatican. Bon, gentiment, j'ai trouvé un autre client qui, lui, a été beaucoup plus loin, puisqu'il est remonté jusqu'à l'Égypte, pour faire ses recherches-là sur les manipulations.
Morning.
les manipulations, ça conduit à quoi ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que cette suggestion dont on nous parle ? Pour comprendre ça, il faut aller rechercher une loi française. Bon, personnellement, la loi a existé après. Il a fallu que j'aille faire des recherches au Brésil pour savoir ce qu'était la suggestion et pour remonter à l'époque napoléonienne. Bon, on ne va pas revenir sur l'histoire de Don Pedro ni rien du tout. Nos législateurs ont été beaucoup plus précis. Et la fameuse loi concernant l'abus frauduleux de l'état d'ignorance et de faiblesse, que l'on trouve sur le code de procédure pénale, à l'article 223.15.2, c'est la fameuse loi Abou, ou, comment dire, qui a été faite à l'époque où on nous parlait, tant qu'on en voulait, des sectes. Et qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce que la suggestion ? Alors les punitions, je vous dis pas, l'interdiction de séjour, interdiction des droits civiques et tout ce qu'on veut, et d'une personne en état de suggestion psychologique ou physique, résultant de l'exercice de pression grave ou réitérée, ou de techniques propres à altérer son jugement pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Alors, qu'est-ce qu'une personne qui a des actes ou des abstentions très préjudiciables ? C'est une personne qui n'a plus tous ses esprits, comme il se disait. Ça devient ce qu'on appelle communément, en droit, un incapable. Et qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui ? Bon, on a vu les gilets jaunes. Pour donner un exemple, et pour parler de la manipulation à grande envergure, celle que l'on trouve dans la Constitution, après on nous dira qui sont ces gens qui dirigent au-dessus du président de la République, il faudra bien aborder le sujet. Là, on pourra revenir aux gilets jaunes. Il y a eu un mouvement populaire qui s'est mis en place après l'affaire anodine de M. Benalla. M. Benalla a agi en tant que fonctionnaire de l'Élysée, en personne qui, qu'on le veuille ou non, s'est mise à nous respecter les textes de loi français, d'une façon miraculeuse. Miraculeuse pourquoi ? Parce que il est intervenu dans la manifestation du 1er mai et il est venu en aide en tant que citoyen, peut-être fonctionnaire, peut-être policier, peut-être ce qu'on veut, mais en civil, au départ, il est intervenu pour arrêter les deux personnes qui commençaient à déborder dans la violence et sur une place publique. Si on regarde tout ce qui a été fait par les médias, si ce n'est pas de la manipulation, on n'en est pas loin, ou pour plutôt dire c'est honteux. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? Il faut relire le journal Le Dauphiné Libéré, le premier journal du Dauphiné Libéré sur l'affaire. Il y avait sur la place 4 personnes. Il y en avait plus 50. La manifestation avait été dissoute depuis un moment et il était prévu que les restes des manifestants aillent faire un simple, apéritif convivial, où se trouvait celui qui a pris les photos, etc., et qui faisait partie qui est un élément d'un parti politique récent. Bon, là, qu'a fait ce monsieur ? Il a respecté simplement l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, qui existe encore, aussi bizarre que ça paraisse, dans les manifestations en Algérie. Alors, la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Et, justement, là, que se passe-t-il en France ? C'est que la force publique, elle n'intervient pas pour les citoyens, elle intervient au service de ceux qui sont censés faire cesser une manifestation quand bon leur semble. en ayant une force publique qui est complètement en face des personnes qui ont des choses à dire. Et là, c'est le début de la manipulation mentale. Parce que à la fin de la manifestation, personne n'a pu parler, tout le monde a été gazé, et plus personne ne peut se retrouver pour discuter. Voilà le grand malaise. Là, Monsieur Benalla s'est défendu gentiment de son intervention. C'est l'article 73 du Code de procédure pénale qui lui permettait de faire ce qu'il a fait, comme ça le permet à tout citoyen d'arrêter la violence, de la même façon que tout citoyen doit participer à la vérité. Et ceux qui doivent, ceux qui sont payés pour le faire peuvent y être contraints. Ça, tout le monde l'oublie, c'est l'article 10 du Code civil. Voilà où l'on en est en France, et dans ces pratiques subjectives, là, où en est-on? Eh bien maintenant, les manifestants qui sont arrivés avec les fameux gilets jaunes, eh bien on leur a carrément fait oublier ce qu'ils ont revendiqué le premier jour. Est-ce qu'ils ont remis en cause? Ils ont remis en cause qui? Les journalistes, les partis politiques, les syndicats, leur train de vie. Et qu'est-ce qu'on leur a parlé? On a commencé de tout. Pourquoi ils en veulent aux journalistes? Pourquoi ils en veulent aux partis politiques? En France, on a encore le fameux journal officiel du 20 juin 1997, après la dissolution de l'Assemblée de M. Chirac. Et c'est là qu'on va en finir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Chirac a dissous l'Assemblée nationale? On l'a oublié. Il y avait les trois quarts des plaintes qui étaient déplacées sans suite. Et tout le reste, la reconnaissance qui a été faite par l'Assemblée nationale, le Sénat, le même jour, le 19 juin 1997, paru sur le journal officiel de cette Assemblée nationale, le 20, ben les journalistes n'en ont plus parlé le lendemain. Et les engagements qui ont été pris, il n'y en a plus. Et 20 ans après, on en est où? Au même problème, avec des gens qui revendiquent, et on les amène, on laisse tout de côté. Et la manipulation mentale, elle en est là.
Revenons-en aux gilets jaunes. Ces derniers ont créé un mouvement spontané, inédit, qui a des raisons d'être, et ces raisons d'être ont été totalement oubliées en quelques semaines. Tout le monde a parlé de tout, tout le monde a été occupé à tout, sauf au pourquoi les gilets jaunes ont agi de la sorte. Et pourquoi les gilets jaunes ont fait ces revendications et ces rejets de certains services, de certains partis politiques, etc. On ne va pas revenir dans les détails, cela revient presque inutile. Et là-dedans, comment ça s'est passé? Bon, Benalla avait tout à fait raison, je le répète, d'agir comme il l'a fait avec son collègue, en vertu de l'article 73, parce que tout le monde pouvait faire pareil, tout citoyen, en toute normalité. Le reste qui s'est mené, c'est le principe de la manipulation mentale, le principe de la manipulation mentale, j'allais dire étatique. Nous avons besoin de sortir de cette misère dans lequel plonge le pays. Nous en avons besoin pour l'environnement, mais cela devient impossible parce que l'État travaille par la manipulation et ceux qui ont les capacités d'agir ne sont pas ceux qui commandent. Le vrai problème, il est là. Donc, il y a un travail qui se fait en parallèle des gilets jaunes que l'on voit dans les rues, en partant des personnes qui ont été présentes des premiers jours et qui continuent gentiment de côté à préparer l'avenir. Voilà où nous en sommes, voilà où nous demandons de faire d'autres réunions. Pour ce qui concerne l'environnement, le vrai problème, tout le monde a oublié l'oxygène. Tout le monde a oublié que si on rajoute de l'oxygène, il y a moins de pollution. Et l'air devient équilibré, etc. Donc nous n'avons plus à, sombrer dans des démarches qui n'amènent à rien. Pour comprendre ce qui amène à rien, c'est simple. Le journal officiel du 20 juin 97, dont j'ai déjà parlé, est resté une lettre morte, parce que qui c'est qui a pris la place ? La manipulation mentale. Et cette manipulation mentale, c'est la continuité des cabinets noirs qui ont fait la pagaille en France depuis au moins Henri IV.
Merci Jean-Claude, ça on en reparlera la prochaine fois.
On a
l'histoire des cabinets noirs. On aura peut-être l'occasion d'y revenir.
Mais bien sûr.
Pour que ça n'ait pas l'impression d'une...
Oui, on a voulu faire un tour d'horizon.
Voilà, tu as fait un petit tour d'horizon. Avec ta formation de juriste, on a vu qu'il y avait des articles extrêmement inquiétants dans notre constitution. Et il serait bien que le peuple refasse sa constitution en tirant au sort les 500 personnes qui la rédigeraient. Voilà, donc on termine là-dessus. On fera une prochaine émission sans doute sur cette histoire de diminution massive de l'oxygène dans l'air de la ville de Grenoble et aussi Chartreuse. Il y en avait pas mal puisqu'il y a pas mal de forêts. Et on va essayer de voir en quoi ça... peut-être que les nazis avaient le projet de diminuer le taux d'oxygène pour crétiniser la population. En tout cas, ça a quand même des conséquences sur notre santé, ce qu'on essaiera de voir une prochaine fois. Voilà, portez-vous bien. André Duny, c'est toujours la même scène qui cause. Je vous renvoie à notre téléphone 06 75 80 05 119. Vous pouvez laisser un SMS, je sais que c'est délicat de dialoguer directement quand on connaît pas la personne, hein, mais un petit SMS sympa, on vous répondra. Pour les mails, j'en reçois peut-être trop de toute provenance et j'ai pas toujours la capacité de répondre. Je dis pas que je reçois des milliers de mails de la radio, les petites radios locales, on a un mail de temps en temps. Mais peut-être c'est plus sûr de faire un SMS, donc André Duny, 06 75 80 05 119, à votre service, pour une information et des réflexions qui nous permettent de nous sauver tous ensemble, plutôt que de s'en remettre à un système dont vous allez, au fil des émissions, déjà quelques-unes, voir en quel point il nous manipule. Merci beaucoup.
C'était La Scène Cause pour un bien commun et un monde vivable.